particulier, Claude Beausoleil, pour toi? D'abord, Bernard Pausier, qui es-tu?
Ben, moi, je suis né à Trois-Rivières en 1955. J'ai commencé à travailler en poésie avec Gatien Lapointe vers 1976, dans ce coin-là. Donc, à l'époque, il y avait la maison Les Écrits des Forges, qui était à l'université, pour publier les textes des ateliers de création donnés par le maître Gatien Lapointe. Mais en même temps, c'était une école d'édition, donc il nous montrait comment nos livres étaient fabriqués. Moi, ça m'a intéressé, je suis toujours resté à travailler avec lui. Et après son décès, je suis devenu le directeur littéraire de la maison, donc en 1985. Et j'ai continué donc là-dedans, donc à publier mes propres recueils, mais aussi principalement à m'occuper de cette fonction de directeur littéraire des Écrits des Forges. Alors, c'est un peu ça, brièvement, mon parcours poétique. J'ai rencontré Claude à peu près au milieu des années 70. Donc lui, il était déjà un des poètes de la jeune génération à l'époque. Moi, j'étais encore un petit peu plus jeune, donc on était, nous, les poètes débutants de ce qu'on appelait à l'époque l'école de Trois-Rivières, sous l'égide de Gatien Lapointe. Donc, avec mes camarades comme Yves Boisvert, Louis Jacob, Denis Saint-Yves et Daniel Dargy. Et donc, Claude, on a commencé à avoir des contacts, principalement parce que Gatien Lapointe avait l'habitude de dire quels sont les poètes qui vous intéressent, et il les invitait pour qu'on les rencontre. Hein? Donc, on a rencontré Miron, on a rencontré plein de poètes à ce moment-là, de cette façon-là, par notre maître Gatien. Donc, Claude, on avait certaines affinités. Je me suis vite aperçu qu'il connaissait bien diverses poésies, qu'il connaissait aussi d'autres secteurs, notamment les arts plastiques. Hein? Lui-même avait tenté de la peinture. Donc, c'est des aspects qu'on connaît peut-être un peu moins de Claude. Et à partir de là, on a commencé à faire des échanges. Moi, je faisais une petite revue avec Yves Boisvert qui s'appelait l'Atelier de production littéraire de la Mauricie. Donc, Claude nous donnait des textes. Et en échange, moi, il m'invitait à publier dans la revue Au Beau Québec, hein, qui est maintenant mythique. Donc, je suis arrivé au Beau Québec, moi, au numéro 35. Ça finit au numéro 47. Donc, j'ai participé à peu près à tous ces numéros-là. Donc, on s'échangeait des textes comme ça. Puis, on se voyait. Puis, bon, on discutait, ainsi de suite. Et puis après, ben, ça l'a intéressé évidemment à venir publier aux Écrits des Forges. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Claude, son premier recueil, en fait, c'était dans un cours de création ou un cours de, je ne sais plus si c'était un cours de Jean Leduc ou quelque chose comme ça, mais son travail, en fait, c'est qu'il avait fait un recueil de poèmes, son premier, Intrusion ralentie, et il l'avait envoyé à tous les éditeurs de poésie de l'époque pour étudier comment on allait lui répondre. Hein? Et il l'avait envoyé donc aussi aux Écrits des Forges. Et à l'époque, Gatien lui avait expliqué qu'il ne publiait que ses étudiants des ateliers. Mais au moment où on s'est rencontrés, c'était en train de s'ouvrir un peu parce que les étudiants n'étaient plus des étudiants et rencontraient justement d'autres poètes, par exemple cette rencontre avec Claude. Et Claude donc est venu publier aux Écrits des Forges à partir de ce moment-là, donc avec plusieurs autres de l'époque. Il y a eu Chamberlain, il y a eu Jean-Paul Daoud, Yolande Villemer, Lucien Francoeur, Gilbert Langevin et plusieurs autres qui sont venus se joindre à nous. Et c'est comme ça que la maison s'est ouverte à la poésie québécoise. À partir de là, on a fait toutes sortes d'échanges, donc dans des revues, on s'est vu dans des salons du livre, on s'est adonné plus tard à faire ensemble toutes sortes de projets, comme participer au marché de la poésie de Paris, comme beaucoup de voyages qu'on a fait dans le cadre de salons du livre, de lectures, de festivals, toutes sortes de choses de ce genre-là. Beaucoup de projets éditoriaux aussi, hein, comme directeur littéraire. J'ai publié environ, certainement, une quarantaine de livres de Claude Beausoleil, hein, mm-hmm. dont à peu près une trentaine de livres de poésie, dont à peu près 7 ou 8 ont été traduits en espagnol, donc je pense qu'on reviendra là-dessus. Il a fait 2 essais. Et aussi, il y avait des anthologies, hein, ça c'est un aspect important. Il y avait une anthologie de poésie mexicaine, de poésie suisse romande, de poésie acadienne. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Alors, donc, ce qui frappe d'abord, je crois, chez Claude, c'est l'abondance. Hein, l'abondance de ce qu'il fait, l'abondance de ce qu'il est, l'abondance de ce qu'il écrit, l'abondance de ce qu'il sait. Hein, l'abondance dans les poésies. Parce que d'abord, c'est un énorme lecteur. Hein. Dès qu'il peut, il lit les livres de poésie. Donc, il lisait tout. De toutes les poésies, tout ce qu'il pouvait trouver, toujours, il lisait. Donc, il connaissait beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, il connaissait l'art aussi. Donc, comme immense lecteur, il est devenu aussi un immense critique. Hein? Il a parlé d'à peu près tous les poètes québécois et beaucoup de poètes étrangers dans toutes sortes d'articles. Il a été à la presse, il a été au Devoir, il a écrit dans l'Institut, il a écrit dans à peu près toutes les revues qui existent, Mainmise et toutes sortes de choses. Après, c'est quelqu'un qui est immensément ouvert aux autres. Hein? Et ça a servi aussi aux Écrits des Forges, hein, parce qu'il amenait des choses. Par exemple, il y avait beaucoup de liens avec l'Acadie à l'époque, principalement avec Hermène et Gilles Chiasson, Gérald Leblanc, Diane Légère et des gens comme ça. Donc, il y a des Acadiens qui sont venus aussi aux Écrits des Forges comme ça, donc via Claude, hein, parce qu'il était ouvert à beaucoup de gens. Après, quand on a commencé ensemble à travailler sur la France, ben là, on a partagé nos connaissances. Et plus tard, un des ajouts importants que Claude nous a amenés, c'est le côté du Mexique. Hein? Parce que Claude était un touriste du Mexique. Et donc, il allait visiter des sites, il allait un peu sur les plages. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se satisfaire d'être sur la plage. Hein? Parce que, justement, il est toujours habité par la poésie.
A la caída de las palabras, la nieve habla del silencio, un silencio inspirado en la noche, donde lo oscuro invierte los sueños zunguidos de una palabra encontrada, develando la fibra de un antiguo pergamino, que los dolores junto con los vientos de la mañana despliegan sobre los juegos adormecedores hacia un pasaje fuera del olvido.
À la tombée des mots, la neige parle du silence. Un silence inspiré de la nuit, où le noir inverse les rêves enduits d'une parole retrouvée, dévoilant la fibre d'un ancien parchemin que les douleurs, avec les vents du matin, déploient sur les joues endormies vers un passage hors de l'oubli.
Ce qui l'intéresse, c'est la culture, c'est la poésie. Donc, il est allé au-devant de la culture mexicaine et particulièrement de la poésie et des poètes mexicains. Donc, il a rencontré Marco Antonio Campos, il a rencontré Victor Manuel Mandiola et plusieurs autres poètes mexicains. Et là, il a dit, bon, ben, il faut qu'on fasse des échanges entre nos cultures. Donc, il a commencé par faire traduire Émile Néligan en espagnol pour que les Mexicains connaissent Néligan. Et là, à force de rencontrer des poètes et d'apprendre l'espagnol aussi, tout dans ce cheminement-là, il a commencé à apprendre l'espagnol. Donc, pour pouvoir lire les recueils de poésie, c'était ça son objectif toujours. Donc, si je veux connaître cette culture-là, il faut que je puisse la lire. Donc, il a développé son espagnol pour apprendre à lire la poésie.
Bajo las palabras de otra lengua, no sentir más ni las lágrimas ni la usura. Cuando vacilan las horas agujeradas de angustia, angustia irreversible de los grandes vientos del norte, angustia de espectros, estos animales nocturnos que señalan la certeza de una anulación sin recursos.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada.
Sous les mots d'une autre langue, ne plus ressentir ni les larmes, ni l'usure quand vacillent les heures trouées d'angoisse, angoisse irréversible des grands vents du nord, angoisse des spectres, ces animaux nocturnes qui balisent la certitude d'une annulation sans recours.
I hope you share. I hope you share. But I've been lonely. Alone in the box of my urn. 'Cause they claim to love me. But though I'm lying, I've been lonely. Alone in the bumps of my heart. And this is the place that I belong.
Regresar libremente, volver afónico, pero consciente. Los viajes toman por asalto el vértigo de ser todavía este caminante nómada, entre las figuras de la noche y las grafias del día.
Repartir librement, revenir aphone mais conscient. Les voyages prennent d'assaut le vertige d'être encore ce passeur errant entre les figures de la nuit et les graphies du jour.
Cada noche arde el día.
En chaque nuit brûle le jour.
En cada noche arde el día.
En chaque nuit brûle le jour.
En cada noche arde. En cada noche arde el día. En cada noche.
En chaque nuit brûle le jour. En chaque nuit, brûle le jour.
Et là, il s'est dit, bon, au Québec, on connaît pas ça, donc il faut faire une anthologie de la poésie mexicaine. Et ça, c'est devenu un livre très important. Parce que moi, il m'a apporté ça. Il m'a dit, je veux faire une anthologie de la poésie mexicaine. Bon, j'ai dit, moi, poésie mexicaine, je connais 3-4 auteurs, je connais pas grand-chose. Donc, c'est intéressant parce que je connais pas. Donc, on va faire ça. Et ce qui est très important de ce livre-là aussi, c'est que Claude a dit, oui, mais ce sera une anthologie de poésie mexicaine faite par des Québécois. Donc, tous les textes vont être traduits par des Québécois. Donc, ce sera une vision québécoise. Et c'est mon choix comme Québécois. Par exemple, ça a étonné les Mexicains quand l'anthologie est sortie, parce que Claude a fait toute une section sur la poésie des femmes. Et au Mexique, bon, c'est pas qu'il n'y a pas de femmes, c'est pas qu'ils les mettent pas dans les anthologies, mais...
Cada noche,
c'est un peu comme en France. Eux, c'est pas un geste naturel et ils calculeront pas voir s'ils en ont mis assez. Par exemple, en France, des fois, on voit des anthologies, il y a 100 poètes et il y a 2 femmes. Bon, ici, c'est impossible. Hein? Même spontanément, on n'y arriverait pas à ça. Quelqu'un qui fait pas attention aura au moins un 20-30% de femmes. Bon, puis quelqu'un qui fait attention aura un équilibre plus juste. Alors ça, c'est donc, je pense, la première fois que le Québec ose se prononcer sur une littérature autre par ses propres traductions, sur une littérature entre autres que, mettons, canadienne ou française ou même un peu des États-Unis. Alors, ce livre-là, donc, on l'a publié en coédition avec le Castor Astral et on l'a réimprimé plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui nous fait connaître, qui nous ouvre un secteur. Et à partir de là, donc, on a rencontré des éditeurs mexicains, on a participé à des foires de livres au Mexique et on a commencé donc tout un vaste programme d'échanges et de traductions avec les poètes et les éditeurs mexicains, qui fait que maintenant, aux Écrits des Forges, il y a à peu près 200 titres qui sont bilingues espagnol-français. Donc, on peut lire les poètes mexicains dans leur langue et dans ce que ça a donné dans la traduction, et inversement, les poètes québécois, comment ils sont traduits en espagnol. Alors ça, c'est un aspect donc très important aussi, qui a été amené par Claude.
C'est un passeur, en fait. Hein?
Oui, c'est quelqu'un qui, justement, aimait absorber beaucoup. mais pas seulement pour lui-même, c'est ça. C'est qu'après, il voulait que ça émane, que ça ressorte et que ça jaillisse et que ça fasse des projets et qu'il y ait des revues et qu'il y ait des livres et qu'il y ait des traductions et qu'il y ait des colloques et qu'on en parle et qu'on lise et qu'on... Voilà, c'est ça. Fait partie de ce que je disais au début, une espèce de...
D'abondance
d'action. Oui, c'est peut-être le premier mot qui me vient en parlant de Claude, hein, l'abondance, et aussi l'abondance de son œuvre, la diversité de son œuvre qui est très importante. Hein. C'est quelqu'un qui est une espèce de géant, une espèce de d'Alexandre Dumas ou de Victor Hugo ou de Michel Tremblay ou de Victor Lévy-Beaulieu.
Oui, c'est tu le compares à ces grands-là. C'est vraiment quelqu'un qui est un incontournable sur la scène poétique, la poésie québécoise.
C'est que justement, il a une masse de livres, et pas seulement dans la poésie, hein, parce que Claude a publié énormément de livres de poésie, mais il a également fait des récits, il a fait quelques essais, et donc il a une grande diversité. Et aussi, dans son œuvre poétique, même s'il y a de nombreux titres, il y a toujours quelque chose de différent dans chacun. Hein, et quand on le lit attentivement, on voit ça. Tout à coup, il se penche sur un sujet, il va là. Par exemple, il y a des livres qui portent sur la musique, principalement le jazz et le blues. Il y a des livres qui portent sur des romantiques anglais. Hein, il fait un livre sur... Oscar Wilde, sur Keats, des choses comme ça. Et tout à coup, il va faire un livre très québécois, par exemple La ville aux yeux d'hiver, ou des choses comme ça, ou justement sur les rapports aux autres, comme Grand Hôtel des étrangers. Donc, il y a toujours quelque chose de neuf, quelque chose de particulier, quelque chose, un angle inattendu dans son œuvre, dans chacun de ses livres.
OK, c'est intéressant. Tu mentionnais au départ, tu parlais de l'abondance du travail. Et je vais te citer dans une phrase, dans une question que tu as posée à Claude, qui était une boutade, dans le fond. Tu lui as demandé comment fais-tu pour écrire autant de livres avec si peu de mots. Et je serais curieux que tu nous expliques un peu ça, parce que ça va un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire. C'est un mot, c'est un auteur abondant. Alors, c'était quoi cette image que tu utilisais quand tu parlais de ça?
Oui, ben c'était une sorte de boutade, bien sûr, c'était pour le taquiner, parce que Claude aussi avait un immense sens de l'humour. Hein. Tout ce qu'il avait était immense, mais le sens de l'humour aussi. Donc, il se moquait toujours de tout, il aimait critiquer tout, il aimait s'amuser de tout. Hein. C'est parce que sa vie était un plaisir, il faisait de la poésie parce qu'il aimait ça, pas comme un tâcheron, hein, parce que c'était sa passion et ça débordait, sa passion. Donc, à une certaine époque, il écrivait toujours un peu en marge de la page, le texte, ainsi de suite. Donc, il utilisait des choses comme ça, et il tournait autour de quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit ça. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de diversité, mais à un certain moment donné, il tournait un peu autour des mêmes mots, des mêmes thèmes, et je lui disais cette boutade aussi qui vient d'un autre fait, hein, c'est que Claude, c'est quelqu'un qui aimait la lecture, donc il aimait aussi la lecture dans son aspect d'oralité. Donc pour lui, c'est important que le texte se lise bien, et se disent bien.
Oui, c'est vrai.
Et c'est dans ce sens-là aussi que je disais ça, parce qu'il ne mettait jamais des mots très recherchés, des mots rares. On n'a pas besoin de dictionnaire jamais avec Claude. Hein, c'est ça. Non. Il y en a qui emploient des mots même qui sont très bien, qui sont très beaux, mais qui sont, disons, plus riches d'une certaine façon, plus rares, plus spécifiques. Et Claude n'utilise pas, mettons, des termes scientifiques. Par exemple, il ne va pas explorer, je ne sais pas, un domaine quelconque, mettons, l'informatique, et employer plein de vocabulaire d'informatique que le commun des mortels ne connaît pas nécessairement. Donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens où c'est quelqu'un de simple et de très accessible. C'était aussi ça qu'il y avait derrière la boutade. Mais par après, justement, sont venus les thèmes comme les romantiques anglais, parce que son grand-père était anglais, donc ça l'a intéressé. Il a dit, il faut que j'aille voir la poésie des Anglais. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est toujours, à partir de sa vie personnelle, aller voir ce qu'il y a dans la poésie.
Oui, c'est intéressant, mais ça recoupe un peu une des expériences qu'on a menées dans le projet qu'on fait présentement. On s'est inspiré du livre « Le chant du voyageur » de Claude Beausoleil. En fait, c'est parti de là. Et très souvent, les textes qu'on a choisis là-dedans évoquaient une chanson. Et comme on travaille beaucoup avec la chanson dans les projets qu'on fait, nous ici, dans cette série-ci, on s'est dit, ça serait intéressant de faire lire des textes où il parle d'une chanson à un moment donné. Et il y en a plusieurs, il y en a peut-être une quinzaine recueil-là. Et on a fait lire à des gens qui ne sont pas des lecteurs de poésie du tout. Lire la poésie, c'est une chose, la dire tout haut, c'est une autre chose. Et c'est ce qui nous a frappé, de voir comment ces textes-là étaient accessibles et pouvaient être dits par toute une variété de gens qui ne sont pas, a priori, des professionnels de la lecture de poésie.
Chanson de l'enfance. Il ne faut jamais revenir. chante les mots d'une chanson au jardin de ses souvenirs.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé.
Et le voyageur songe à bien d'autres départs. Il chante et chante encore, la passion des dérives, préparant ses bagages et rangeant ses cahiers. Il chante des rivages en son cœur oublié. Et sans relire les pages, s'effacent les années. Ce voyageur qui passe est celui qui est né dans les mots d'une chanson aux promesses oubliées. Il ne faut jamais revenir dans la chambre d'enfance qui parle d'un visage que l'on a caressé, qui parle de chanter les mots d'une mémoire qui s'écrit au passé et devient le miroir d'un temps recommencé dans un voyage ailé, un temps fait d'envolées et de départs qui tournent mélodiquement purs, qui parle de souvenirs et murmure sans mentir. Ceux de l'enfance sont les pires.
J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et refient le son et le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Où mes printemps, où mes soleils, où mes folles années perdues. Mes 15 ans, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. Ces photos, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant.
La chanson recommence, la route belle et grise du soleil au matin a changé l'horizon. Le poète prend sa voix pour l'écho d'une chanson. Que serais-je sans toi qui vais à ma rencontre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Dans l'espoir amoureux, le poète projette le chant de ses aveux comme une chansonnette. Il va redire au vent que le ciel le réclame pour faire plus avant des chants beaux comme la flamme de cet amour un jour rencontré dans sa vie, de cet amour toujours qui le rend amoureux des terres, du ciel plus bleu et de mélancolie. Le poète dira « J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson ».
quand revient le jour plein des mots de sa chanson.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Oui, et la chanson, il aimait beaucoup aussi. Il aimait écouter les chansons à la radio, hein, parce que c'était ce qu'il avait eu à l'origine quand il était petit. Donc, il écoutait les chansons à la radio. En fin de soirée, quand il aimait beaucoup chanter « Salade de fruits », ça, c'était drôle. Souvent, en fin de soirée, il chantait ça. Et puis aussi, ben, ça lui est arrivé d'écrire des paroles. Hein. Par exemple, pour Lucien Francoeur, il a écrit sur Nelly Gant.
Oui, OK.
Et c'était le pari de mettre Nelly Gant dans le jukebox, hein, qu'il y avait eu entre Francoeur et Beausoleil. Et donc, c'est un 45 tours. Et ensuite, qui est paru sur l'album Le Retour de Johnny Frisson de Lucien Francoeur.
Oui.
Et
oui.
Effectivement, c'est devenu une espèce de succès, mais un succès toujours un peu controversé parce qu'il y en a des gens qui étaient un peu scandalisés qu'il y a une version un peu rock de Nelly Gant.
Nelly Gant, c'est vrai qu'elle brasse. La version, je l'ai écoutée, là,
voilà.
ça brasse pas mal.
Alors ça aussi, donc, c'est quelque chose qui est particulier dans le travail de Claude.
Okay.
Il était toujours prêt à expérimenter, à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est ça. Et face à d'autres poèmes, il y aurait eu de la difficulté à savoir où arrêter, comment lire, quel rythme prendre, peut-être même buter sur certains mots dans certains cas, ou certaines images, ou certaines allitérations, ou des effets sonores que le poète aurait mis. Et justement, par exemple, dans son dernier recueil publié, En un grand souffle noir, c'est entièrement consacré à la musique, c'est-à-dire au blues et au jazz, principalement Billy Holiday et d'autres.
Oui, Billy Holiday était une grande source d'inspiration pour lui. Hein. Il en a parlé, il a écrit des textes, Jack et Billy.
Jack et Billy dans le blues de la nuit, par Claude Beausoleil. En hommage à Billie Holiday et à Jack Kerouac qui se sont rencontrés dans un bar perdu au milieu des États-Unis.
Southern trees bear strange fruit, the leaves blow at the root.
Jack, ce que tu racontes à Billy dans la nuit d'Amérique, c'est ta façon à toi de jazzer l'énergie. Black Billy, tu écoutes sa complainte en français. Tu connais les racines de ce continent noir. Toi qui chantes Billy, sa souffrance incarnée dans la chair de ta voix. Tu la chantes, lui l'écrit. on the road, dans ce blues du silence de la nuit. Ta voix noire, Billy, ta voix, ton désespoir, toute ta force aussi. Jack l'écoute ce soir, on the road pour la vie. Billy Blues pour la nuit à entendre ses mots. Perdu, inconsolable, dans l'extase et la rage, tu répètes, murmurante Billy. Lorsque s'ouvre la nuit, ce que Jack te raconte, le voyage de sa vie sans bagage dans la nuit, on the road, tu l'écoutes, Billy. Comme un blues en cadence dans la ranse, Billy. Étrange fruit de la nuit. Blessure de blues, Billy, dans ta voix, l'origine, sa douleur, sans défense, injectée d'innocence avec Jack partagé. Dans cette nuit d'Amérique, dans ce bar de nulle part, hanté d'éclats de voix, où ton désir exprime dans tout l'amour du blues la poésie qui s'avance quand tu écoutes Jack, Billy. Dans sa langue blessée, tu retrouves les rythmes de ses chants de coton, de ses humiliations, ses outrages sans pardon, et dans les mots de Jack roulent encore les sons quand la neige a neigé au plus profond délire. Des mémoires partagées dans ce bar où le blues vous rejoint dans l'instant. Âme de cette Amérique à chanter, à écrire, pour dire sans concession une soif d'exister.
Strange and bitter.
Kerouac, tu racontes à Billy pour jazzer le périple. D'abord Lowell, puis la route, les autres sons français, les déroutes de la route, les autres dimensions improvisent une passion, un secret, un regret, une chanson des routes. Tu répètes, tu répètes, tu répètes et tu dis comme celle entendue sur les pas des géants, des amoureux, des poètes, des amis d'autrefois qui sont devenus grands. Des efforts pour durer, des enfants s'en aller sur la route de blues à partir vers les cieux, tu dévides de tes mots. Au creux d'itinéraires fauves comme des sanglots dont les anges scandés sont des émotions vives, corps à corps rythmés. Tu répètes que les mots elliptiques sont en toi, territoire sacré du quotidien qui file. On the road, sur la page, on the road, tu répètes et tu dis. Tu répètes que les mots sont la route infinie d'un jardin d'Amérique aux immeubles enfouis dans des rêves d'enfants qui regardent la télé sur des postes impossibles où ils n'osent rêver, tellement les horreurs, les peurs, les monstres de la vie sont des flambeaux meurtris, des crises de néant, aux soucoupes volantes, des armes de propagande aux anciennes féeries. Tu dis, la nature a presque disparu. Mais là où tombent ces affres fêlées, demeure un homme qui se bat contre l'hégémonie, les folies, les rejets, les mensonges, les tabous. Un homme resté debout, rêveur face à l'écran, des étoiles et du vent. Tu répètes, tu répètes, tu répètes ces mots, on the road, on the road, on the road, pour la vie. Tu répètes qu'il parlait en français, de whisky en whisky, et qu'il est d'Amérique, du Québec, de Bretagne, d'ailleurs, au cru d'ici. En toi aussi, Billy, qui répète ces mots, traduisant ta voix, son on the road pour la vie. I'm glad you're back. Don't explain. L'Amérique à vos pas accroche ses rêves fous de continents irradiant dans la beauté noire du couchant fleuve de mots français, tatouage d'orage, mémoire incandescente, on the road, you're my joy and pain. Les souffrances mnémoniques changées en utopie, on the road, dans la voix de Billy. Un chant rauque du nord dans les mots de Kerouac, âme sonore du vent, âme du continent, à l'envers du brassage des cerveaux annulés par la machinerie de l'enfer consommé. Tu répètes et tu dis que sa voix est un mot qui en toi prend racine, on the road, tu répètes que tu sais que tu es comme lui. Enfant d'une Amérique qui s'écrit en français et se chante, dans l'eau noire des exclus donnant à ses rêveries des allures rythmiques jasant dans le périple qui traverse l'Amérique. De Montréal à LA, de Baltimore à Lowell, de New York à là-bas vers Mexico City Blues. Se répètent vos mots improvisés on the road, dans le blues, sur les routes d'Amérique ou dans les mots français. La vie poursuit la vie d'un projet, d'explorer en un champ noir secret qui brûle le continent qui renaît rebelle en ses trajets. Tu répètes et tu dis on the road, pour la vie. Le bonheur, c'est l'instant. Tu le chantes, Billy, tu le chantes. Et toi, Jacques, tu l'écris. Tu répètes, et tu dis le bonheur. C'est l'instant dans le mot liberté.
Yolande Villemer, poétesse.
Constamment, il écoutait beaucoup Billie Holiday.
Oui, c'est tellement une belle artiste.
Ce texte-là aussi, je m'aperçois qu'il faisait ça en marchant sur le bord de la mer, donc et c'est comme ça que tu répètes, et tu dis, ça faisait un effet enchanteur sur le public. Moi, j'ai toujours vu le public là, sidéré par ce texte-là. C'est presque chamanique, je dirais. Hein?
Oui,
c'est comme.
C'est vrai.
My mind, you used to say that someday I will be loved. How can you claim to love me when caring becomes a prison, when caring means hurting? To say, I have to believe, keep the faith. But how can I teach trust and faith when it's so hard to believe, when I can't still hear my daughter's cries? Mama, you used to say, I have to forgive, to be forgiven. But how can I learn forgiveness when I am not even seen? How to forgive the one, who's blind?
Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can be?
Up, I can feel the sway, strange fate follows me. I'm not the first nor the last one, but still I'm close to freedom, to freedom. Thank you.
life a reflection of what man can be.
Is life a reflection of
what man can be?
Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can be?
Or of what
man can be? Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can be?
Is life a reflection of what man can be? Is life a reflection of what man can own? Is life a reflection of what man can make? Is life a reflection of what man can break?